on va pas reprendre sur les transports, hein. Donc on va parler de la crise peut-être. Vous l'avez senti arriver? Vous la sentez autour de vous? Vous la sentez dans vos...
Ben, on fait plus Mardi Gras déjà.
Donc ben, moi pas du tout, parce que je travaille dans un milieu où il y a beaucoup d'argent avec des laboratoires. Donc on va faire vite sur moi.
Donc au contraire, ils ont bien kiffé la crise avec tous les antidépresseurs qu'ils ont vendus.
Bah limite, il y a encore plus d'argent que d'habitude. Je suis dans le domaine médical, donc enfin, je suis pas médecin, mais une association de médecins.
Vous faites quoi aussi?
Et bah, j'organise des congrès, des formations. Donc c'est l'événementiel, mais c'est très ciblé dans le domaine médical.
Donc ces gens se portent très bien, ils prospèrent, mais autour de vous? Laissons les copains qui vont parler, mais la famille, les amis, les voisins,
non.
Les commerçants, rien ne ferme, tout va bien.
Ben, très honnêtement, non, moi je la ressens pas au quotidien. Dans la
mendiants.
Oui, les mendiants m'ont fait une
aide.
Non, pas plus, pas moins. Enfin, oui. J'ai pas l'impression, je sais pas.
D'accord, donc
non, moi la crise, j'ai... Non, pas vraiment. Mais en même temps, je ne suis peut-être pas au cœur d'emplois qui sont vraiment, vraiment touchés par la crise. Donc, je suis pas un bon exemple.
Alors, oui, mais alors par d'autres moyens. Moi, je... Autre, bah, d'abord, en tant que musicien, et en tant que prof de musique, travaillant dans des écoles, on l'a ressenti retardement, c'est-à-dire que c'est pas en 2008 qu'on l'a ressenti, mais il y a eu beaucoup moins d'inscriptions dans l'école où j'enseigne l'année suivante. Donc déjà, je pense que la crise a participé un petit peu au fait que les loisirs ont moins...
L'école où j'enseigne, c'est une école privée?
Ouais, c'est une école privée. Il faut que je dise le nom. Enfin, c'est une école qui est à Strasbourg-Saint-Denis, qui s'appelle le Projet Musical, qui est une petite école pour adultes. Mais c'est exclusivement des amateurs. Ça, c'est bien, ça. C'est exclusivement des amateurs. Et ouais, c'est vrai que... moi, j'ai des élèves qui m'ont dit « Je peux pas me réinscrire, quoi. Je peux juste pas me réinscrire. » Et ensuite, moi, je m'occupe aussi pas mal des histoires de ma mère. C'est-à-dire que ma mère, malheureusement, elle est tombée malade et donc elle a un patrimoine immobilier et pas mal de... Enfin, elle a un patrimoine immobilier, elle s'occupe de louer des apparts, des studios, etc. Et comme ma mère est tombée malade, c'est moi qui m'en suis occupé. Et là, oui, je l'ai senti, ouais.
C'est-à-dire
y a des studios de vide. Les gens, ils n'ont pas les moyens de... C'est plus difficile de louer des studios maintenant. Ils sont en province, hein, ils ne sont pas à Paris. Mais oui, c'est plus tendu. C'est plus tendu. Et alors qu'à l'époque, tous les studios étaient pleins, et ben là, il y en a des vides.
Sinon, vos habitudes à vous de consommation,
ça bouge? Oui. Moi, j'ai bossé sur des projets télé en tant que compositeur et des projets qui ne sont pas faits. À ce moment-là, ils chipotent aussi vachement plus sur les prix, les tarifs qu'on demande. Les mecs, ils veulent pas payer, tout simplement. Sinon, directement par rapport au prix de la consommation, moi, je vois les prix qui augmentent, mais bon, il faut bien manger, donc j'achète. Hein. Enfin,
Donc pour l'instant, ça va. Vous n'êtes pas en train de terminer les mois aux pâtes et de dire qu'il n'y aura pas de week-end.
Je les commence aux pâtes. Donc je les finis aux pâtes aussi. Non. De manière.
Plus que la crise, je pense que c'est. Enfin, c'est l'euro qui a vachement changé les prix, plus que la crise. Mm-hmm. Le passage à l'euro. Et c'est pas le passage d'ailleurs, c'est plutôt aujourd'hui où on en est vis-à-vis de l'euro qui fait que ça a pas mal changé les prix. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus de référence, on est habitué à l'euro et on n'achète plus de la même manière. Aujourd'hui, on se dit qu'un euro, c'est pas cher, mais avant, un franc, c'était pas cher. Un euro, c'est 5-6 francs, donc ça n'a rien à voir.
Mais en même temps, beaucoup de prix ont baissé tandis que d'autres augmentaient.
lesquels ont baissé.
Oui.
Pas vraiment.
Les ordinateurs, les habits.
Les habits.
Oh, non, oui, les habits, pas forcément.
Si certaines marques.
Mais vous pouvez aller chez clairement. Voir des grands distributeurs qui vendent des choses pour 3 sous.
Oui, ouais, enfin, mais Tati, ça a toujours existé. Et moi, je me suis fait pas mal habiller par Tati.
Camps,
ouais, c'est vrai aussi. Mais non, moi, j'ai pas l'impression que les choses ont diminué. Hein. Moi, j'ai l'impression que tout a augmenté. Moi, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. C'est-à-dire que depuis que l'euro a démarré, la vie est vachement plus chère. On parlait des transports tout à l'heure. Quand je vois le prix de la carte orange aujourd'hui par rapport à la carte orange, le prix du ticket de métro, c'est affolant. C'est affolant. Et bien, encore aujourd'hui, aux infos, ils en parlaient. En 8 ans, je crois que ça a pris, je ne sais plus combien de pourcents, mais c'est monstrueux.
Même au niveau des prix dans les restaurants, par exemple. Ma copine est allée à l'opéra elle est rentrée dans un bistrot, elle a pris un croque-monsieur avec un café et elle en avait pour 21 €. Un croque-monsieur, un café, 21 €, c'est-à-dire l'équivalent de 150 francs. Qui aurait payé 150 francs un croque-monsieur, un café ?
La question que je pose, c'est l'époque. Est-ce que du coup vous pouvez aller manger des croque-monsieur au restaurant ?
Bah, pas à l'opéra.
Est-ce que ça change ?
Non, parce que justement...
Parce que, en gros, le métier que vous faites vous permet de surfer là-dessus sans trop le
métier. Bah, en fait, non, c'est plutôt que le fait de vivre dans le 20e fait que la vie est moins chère dans le 20e. On peut trouver des restos où on mange pour 15 € à deux. 15-20 € à deux.
Kebab. Donc vous pouvez encore sortir au resto.
Oui.
Je sais pas.
Mais ça dépend des quartiers.
Déjà, on gagne plus que ce qu'on gagnait avant.
Non, ça c'est évident.
Mais ça dépend des quartiers. Mais... Effectivement, à Opéra, tu peux avoir.
On sortira peut-être moins qu'avant. Parce que justement, c'est un petit peu c'est plus cher.
Peut-être aussi.
On sortira moins ou on consommera moins sur. Parce que quand on se retrouve comme ça dans un appartement, oui, bon, chacun prend sa bouteille et tout ça, donc c'est facile. Mais dans un restaurant ou dans un bar, à part un moment exceptionnel peut-être, mais on consommera peut-être un petit peu moins, on fera peut-être un peu plus d'attention.
Moi je trouve que ça dépend. Hein.
Moi c'est vrai.
Pour
moi,
ça dépend où on est en fait.
Ça n'a pas changé ma vie. Hein.
Non.
Enfin, ça dépend des moments en fait. Hein. Moi il y a des moments où voilà, je trouve que je fasse attention et je le sais. Et dans ce cas-là, je fais attention. Il y a des mois, par exemple, les mois de vacances scolaires, par exemple, l'été. Juillet ça va encore. Août, ça commence à chauffer. Septembre, je suis dans la merde. Tous les mois de septembre, je suis dans la merde. Et je le sais. Et donc, je fais attention à ce que je consomme. Je fais attention à ce que je bouffe. J'achète beaucoup moins de plats cuisinés. Même globalement, je cuisine plus, finalement, au mois de septembre. Parce que je suis bien obligé. Et que je préfère acheter mes légumes et me faire à bouffer.
Et vous ?
Moi, ça n'a rien changé. J'ai eu une année difficile. Mais j'avais des sous de côté, du coup, j'ai pas vraiment senti que c'était plus difficile. En soi, j'ai commencé à gagner beaucoup plus d'argent quand j'ai changé de métier. Et c'est à peu près quelques années, ouais, c'est un an ou deux ans avant la crise.
Oui, comme il y a une progression dans
proportionnellement, dans
pour tous, en gros, ça va vous arriver.
Oui, ça m'a pas empêché de sortir, de partir en vacances. Non, je change.
Tu sors beaucoup, toi.
Je suis devenu intermittent du spectacle. Hein.
Faut pas s'y donner.
Ah bah ça paye beaucoup mieux. Concrètement, quand je suis intermittent du spectacle, les acédiques me payent plus que ce que je gagnais en fin de carrière d'ébéniste. Du coup, il n'y a pas photo, hein. Il vaut mieux rester intermittent et faire de la déco que ébéniste.
Vous avez fait quelque chose quand même avec ce métier d'ébéniste finalement.
Je l'ai fait 10 ans.
Vous avez... Non, ça n'a rien à voir.
Non, j'y ai travaillé 10 ans et.
Et c'est ce savoir-faire que vous utilisez comme intermittent ou pas du tout?
Si, un petit peu, mais c'est un peu les vacances intermittents. Hein. C'est pas un niveau de finition et un niveau de travail qui est aussi intense que quand on était ébéniste. On n'a pas le même critère, quoi. Entre quelque chose qui va tenir 3 jours et quelque chose qu'on va rendre et qui est censé tenir une vie, niveau de finition, c'est pas le même. Du coup, c'est un peu les vacances, donc...
Mais vous ne prêtez pas plus que ça ?
Ah non, pas du tout.
Non,
je regarde pas. Mais c'est pas... J'en parlais à Victor, c'est pas ma vocation première, quoi. Enfin, moi, je fais du ciné, je suis intermittent, mais L'intérêt est financier plus qu'artistique. Hein. Mmh. Avoir mon nom générique, c'est pas forcément.
Non, ça te fait plaisir quand même.
Ouais. Oh, puis c'est bah, ça me fait plaisir parce que je le vois. Hein.
Bah ouais.
Je le vois. Mais surtout qu'il rentre pas.
Voilà, c'est ça qu'on voit.
Ton nom.
Mais en soi, ouais, je suis bien content d'avoir changé parce que, effectivement, financièrement, c'est beaucoup plus avantageux. Du coup, la crise.
Et autour de vous ?
Autour de moi. Si, difficile, hein. Des collègues qui n'arrivent pas forcément à travailler, même des chefs de poste qui n'arrivent pas à travailler parce que beaucoup de suppressions de projets, surtout chez France Télévisions, depuis qu'il n'y a plus de publicité, ouais. 70 projets annulés en une année. Alors après, c'est une rumeur, il n'y en a peut-être que 40, mais sur 40, ça veut dire 40 équipes de tournage qui se retrouvent
sans boulot. Ouais.
Sans boulot. Donc on est beaucoup à chercher le même boulot. C'est un peu la bataille, c'est juste la crise, mais à peu près, on s'en sort à peu près tous, quoi. À la déco, c'est plus facile parce qu'on a un large éventail de travail, on peut aller dans l'événementiel plus facilement que, par exemple, si on est preneur de son. Preneur de son, il n'y a pas d'événementiel. Hein.
Non.
Faire les décors de Noël chez Disney, c'est pas possible. Hein. Du coup, on s'en sort mieux à la déco.
C'est vrai qu'il y a eu pas mal de baisses de projets. Il y a beaucoup de projets qui ont été annulés.
C'était pour la télévision dans les...
Télévision, enfin audiovisuel, en fait, dans l'ensemble. Moi et monsieur, il fait en plus de l'événementiel. Du théâtre, un peu ?
Moi, j'en fais du théâtre, ouais. Mais théâtre...
Ça paye pas.
Ça paye pas, théâtre. Non, c'est vraiment... Ça paye pas. C'est un peu comme si je me retrouvais au SMIC.
C'est horrible. Toi, la crise dans le tourisme ?
Bah, dans le tourisme, c'est bien ressenti, surtout. Comme on loue des... Moi, je suis dans une société qui loue des appartements ou des maisons de vacances. Donc, les gens, ils veulent partir en vacances de toute façon. Donc, ils loueront l'hébergement. Mais c'est tout ce qui est annexe, la restauration, des excursions, des choses comme ça, qui sont beaucoup plus difficiles à vendre, même les assurances en plus. Bon, tout ce qui va. Tout ce qui est en plus de l'hébergement de base est beaucoup plus difficile à vendre. On a, jusqu'à il y a 2 ans, on atteignait facilement nos objectifs par saison. Depuis 2 ans, maintenant, c'est de plus en plus difficile. À tel point que l'hiver dernier, ils ont réajusté l'objectif parce que ce qu'ils avaient prévu, ils n'avaient pas ressenti aussi fort l'impact de la crise sur les foyers. Mais ils ont quand même, on sait qu'ils ont de l'argent. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. Quand on voit les prix de certaines semaines sur les fortes périodes de vacances scolaires, ça ne les dérange pas de payer. Par contre, le reste, ils oublient. Donc, voilà. C'est surtout de ce que professionnellement je le ressens et que j'ai ressenti la crise parce que bah, les gens font attention à ce qu'ils vont dépenser.
Mais ça, c'est professionnellement. Et dans, ouais. dans la ville, il y a des choses qui bougent. Vous avez des commerçants.
Chez moi, la fleuriste est passée de 7 employés à 2,5. Du coup,
2,5 ?
2,5, ouais.
Et comment elle fait ? Elle l'a coupée en deux.
C'est une apprentie. Ça compte pas comme quelqu'un d'entier.
Ouais, si, j'ai le pressing qui a fermé.
J'ai
un turc d'ailleurs.
Promoteur immobilier qui a fermé aussi. Mais il avait ouvert 6 mois avant. Donc là, ça sent le détournement d'argent. Non, enfin ça,
c'est pas flagrant les fermetures de magasins, de choses comme ça, je trouve. Il y en a, mais c'est pas.
Et ça se transforme sinon. Alors, laissons la crise, il y a aussi à la fois l'arrivée de nouvelles populations, le changement. Vous avez parlé du troisième, vous avez tous les commerces de bouche pratiquement disparu pour laisser place.
Dans le 20e,
ça commence ou pas vraiment ?
Alors, moi j'ai une théorie, mais alors ça vous intéresse.
Ça fait plaisir.
Ça vous intéresse. Moi je pense que la mafia chinoise et la mairie de Paris sont en bisbille, ou en tout cas ils s'entendent bien. Parce que dans le 3e, avant l'arrivée et le rachat et la rénovation de tous les de toutes les petites rues qu'il y a justement qui mènent à la rue du Temple, il y a énormément de Chinois qui s'y sont installés. Mmh. Des maroquineries et aussi des habitations. Et mais en
des ateliers, oui.
Oh oui, en masse avec des ateliers et voilà. Et au fur et à mesure, c'est effectivement une classe beaucoup plus aisée, encore plus aisée que la classe Bobo qui a racheté, qui a pu racheter une fois que tout était rénové, une fois que tout était. Eux aussi ont participé à cette rénovation en plus. Et de plus en plus, les Chinois ont disparu du 3e arrondissement.
Ah, les magasins, pas beaucoup.
Ah si, il y a beaucoup moins de maroquinerie dans les petites rues.
Il y en a quand même moins.
Il y en a beaucoup moins. Il y en a beaucoup moins qu'avant.
Et ça reste quand même.
Ça reste un petit peu.
Parce qu'avec l'école chinoise à côté de la café de la gare.
Ils ont commencé rue Volta. Ils sont descendus jusqu'à la rue Montmorency. Ils ont pris toutes les rues. Et maintenant, ils sont retournés rue Volta et autour de la rue Volta. Ouais. Et à Belleville. Il se passe un peu, j'ai l'impression qu'il se passe un peu le même processus où il y a énormément de Chinois qui arrivent, énormément de Chinois qui rachètent et en ce moment énormément de Chinois qui revendent parce que le quartier est en train de monter et donc les prix ont énormément augmenté et je suis bien placé pour savoir puisque j'ai pas mal visité d'appartements dans le 20e et beaucoup de Chinois vendaient leur appartement. Et chinois, asiatique, je sais, bon voilà, je fais une généralité, un peu comme OSS 117, les Chinois de Chine, quoi. Mais, ou les Chinois du Japon, enfin voilà, mais. cela dit.
Comment tu vas t'en sortir?
Cela dit, je pense effectivement qu'à Belleville se passe aujourd'hui le même processus, c'est-à-dire qu'ils ont énormément racheté. Ils achètent beaucoup moins. Aujourd'hui, ils vendent. Ils vendent à qui? À des personnes qui ont beaucoup plus d'argent, donc les bobos et la classe encore au-dessus, qui s'installent maintenant dans le 20e. Et je pense que dans 15 ans, dans 10-15 ans, le 20e ressemblera beaucoup plus au 3e qu'aujourd'hui.
Oui. Tu as besoin d'imaginer que la mairie de Paris est de mèche avec les Chinois pour ça? Il suffit que les prix augmentent.
Mais il y a une facilité quand même au départ de pouvoir acheter un peu tout ce qu'il y a autour. Soit ils se débrouillent très très bien, soit il y a un petit truc.
Ça reste frappant que les Chinois ont un système de prêts sans intérêt entre eux qui leur permet de.
Ça, racheter. Certainement.
C'est, ouais. C'est plus que certainement.
C'est comme ça que ça marche. Mais bon.
Voilà. Mais pourquoi ça arrive une fois dans le 3e, ici aussi, dans le 13e, j'en parle pas, mais parce que...
C'est parce que tu les attires.
Les Chinois, ils t'aiment.
Non, c'est parce que moi, j'aime bien aller avec eux.
Justement, les Chinois, ils sont bien accueillis. C'était traditionnellement un 20e judéo-maghrébin.
Ouais.
Et l'arrivée des Chinois, ça se passe gentiment ou...
Non.
Vis-à-vis de qui, ça dépend. Nous, une classe un peu bourgeoise, un peu aisée, on est plutôt bien, on les accueille plutôt bien. D'ailleurs, c'est plutôt eux qui nous accueillent. Et dans le 20e, il y a 30 millions de Chinois, 30 000, pardon, 30 millions. 30 000 Chinois.
Ça, c'est une fantasme.
30 000 Chinois à Belleville, donc voilà. Mais non, ils ont beaucoup de problèmes avec. Avec 30 000 référencés, ouais. Ils ont beaucoup de problèmes avec d'agression avec
les autres communautés.
Les autres communautés, ouais. Mais en fait, ils profitent simplement. Ils n'ont pas de compte en banque, donc ils transportent l'argent sur eux. Pour la plupart, ils n'ont pas de papier, donc ils ne peuvent pas porter plainte. Ils profitent de ça, ouais.
Ils sont plus petits, essentiellement.
Aussi. Oui, mais ils connaissent le karaté.
T'es con.
Et les enfants à l'école, ça se mélange gentiment ou...
Oui, ça se mélange. Mais ça se mélange sans se mélanger. Hein. Moi, j'ai remarqué ça. Sans qu'on pousse vers quoi que ce soit, ils se retrouvent entre eux. Et je pense que c'est par affinité d'intérêt, plus que par couleur ou par différence de visage. Je pense qu'ils font pas de délit.
Peut-être. Les
non, les petits, ils parlent super bien français.
C'est les parents aussi.
C'est les parents qui parlent. Mais les parents aussi, ouais, qui freinent. Pas mal. Qui ont, ouais.
Là, quand tu les vois dans le Marais, à côté de la Café de la Gare, où tous les mercredis et tous les samedis, voire même dimanche, ils vont à l'école chinoise. Ils font l'école publique dans la semaine, et le reste du temps, c'est à l'école chinoise. Donc, ils ont une.
Mais ça, il y avait ça aussi dans le troisième, chez les Espagnols et les Portugais, ils allaient aussi apprendre le portugais, l'espagnol le week-end.
Il y en a même qui allaient au catéchisme.
Et ça ne nous empêchait pas, nous, d'avoir de discuter qui étaient nos potes. ça n'empêchait pas que c'était nos potes. Je fais la référence par rapport à son anniversaire. Alors cette année, pour la première fois, on a eu un black qui est venu à notre anniversaire. Mais c'est vrai que toutes ses copines sont blondes, comme elle. Enfin voilà, c'est...
Et t'as fouillé ses poches en partant?
On va passer sur cette blague.
Oui, mais tu crois pas que plus les enfants grandissent, justement, plus moins il y a ça, enfin, moi je vois dans le troisième, quand j'étais tout petit, effectivement il y avait beaucoup de blancs. Puis ensuite, il y a eu quelques Chinois, quelques Maghrébins. Et puis, dès 10 ans, tout ça, ça a explosé. Et puis, il y avait un mélange.
Ouais. Ouais, mais j'ai toujours pas de copains chinois.
Voilà. Si, moi, j'ai deux potes chinois,
Voilà, c'est pareil. C'est vraiment des connaissances.
Ouais.
C'est,
vraiment
c'est le quota, quoi.
Je ne considère pas comme copain dans ce
cas. C'est des connaissances.
On connaît tous un Chinois.
Mais j'ai l'impression Belleville, c'est un quartier particulier, parce que moi, mon grand-père était hongrois, et il a immigré ici, en France, dans les années 30. Il a débarqué à Belleville, et, dans la rue où tu habitais avant, rue Ramponneau, quoi. Et ça a été, Belleville, c'est un quartier d'accueil, c'est-à-dire c'est un quartier populaire de base, voilà, avec de l'immigration juive, de l'immigration maghrébine ensuite, de l'immigration africaine, on n'en a pas parlé, mais il y a beaucoup d'Africains aussi sur Belleville, et ensuite de l'immigration chinoise, et c'est vrai que la communauté chinoise s'implante d'une manière différente des autres immigrations qu'il y a eu ici, mais...
Elle est visible... plus visible quand on arrive quelque part.
Elle est visible et invisible, ouais. C'est-à-dire que en même temps les Chinois ils sont tous discrets.
Ouais.
Ils se mélangent pas. C'est super. Enfin là aussi l'histoire des papiers est vachement importante. Hein. Moi j'ai un copain chinois sans papier, enfin un copain, une connaissance et je me suis toujours dit mais comment ça se fait qu'il est si discret quoi. Mais il rase les murs le type, quoi. Il flippe tout le temps. Tu vois il sait conduire, il prend jamais la voiture. Il paye toujours ses transports, jamais de la vie, il fraude. Parce qu'il n'a pas ses papiers, quoi.
Mais je vais donner aucune raison pour qu'on puisse attraper, quoi.
Et il a pris l'habitude d'être discret. Mais ça, c'est une histoire de pas. Enfin, bon, c'est.
C'est un ninja, mec.
mais un peu, ouais. Mais c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est-à-dire que tu passes une soirée avec lui, genre tu fais la fête et il n'y a aucun problème. Enfin, tu vois, on fait la fête entre nous. Et il n'y a pas de flic entre nous, personne ne va le dénoncer. Et le mec, il est discret et tu l'entends pas. Et tu le connais. Tu vois de quoi je parle. Tu vois
Non mais ça va. La
25, Non, c'est Chang.
Chang. Et puis par rapport à ma copine bosse à Belleville, dans un magasin bio. Et par rapport aux fréquentations de son magasin, justement, c'est rigolo, quoi. S'il n'y a pas de Chinois. Hein.
Ils ont leur magasin bio à eux.
Bio ?
Bah, ils ont leur magasin
d'importation, enfin, ça.
Leur magasin de médecine.
C'est une communauté qui se mélange moins que les autres.
Carrément.
Mais qui s'adapte en même temps. C'est une communauté qui se mélange moins, mais il y a beaucoup plus de Jean-Pierre et de Louis chinois et asiatiques que de Jean-Pierre et de Louis. Qui viennent du Maghreb, enfin, qui se font appeler comme ça par leurs parents.
Ça, c'est une stratégie. D'ailleurs, dès qu'ils apprennent le français en Chine également, ils se donnent des prénoms français. Très imprononçables.
Notre guide en Chine, il s'appelait Jacques.
Ouais.
Mais bon, maintenant, il doit s'appeler Nicolas. C'était en fonction des précédents.
moi j'ai revu mes potes chinois de l'école Rue des Vertus, ils ont tous changé leur prénom, c'est officiellement.
Et ils s'appellent comment maintenant?
Ouais, je sais plus trop, là, je crois qu'il y a un qui s'appelait avant.
mais ça, ça mais vient officiellement. Aussi, ça, mais ça, ça vient aussi vachement de la classe de laquelle ils viennent. Mmh. Une classe migrante récente, parce que nous, on a une amie qui était.
Vietnamienne.
Oui, vietnamienne. Et aujourd'hui, officiellement, elle a changé son nom, hein, son vrai nom de vietnamien, parce que elle est d'une autre classe sociale, avec des parents, une classe sociale au-dessus de la plupart de ceux qui sont arrivés.
Elle s'appelle vraiment.
Ouais. Elle s'appelle. Elle a repris son nom vietnamien.
À propos de classe sociale, vous avez passé votre temps à parler des bobos.
Ouais.
Vous en faites partie?
Oui.
Oui, mais. Oui, mais non.
Oui, mais non. Oui, on en fait partie. Ouais. Mais sans forcément le crier sur les toits et en étant fier. Mais...
Bah déjà, eux, ils sont intermittents, donc déjà, oui, d'office. Ah,
c'est
quoi.
Clair. Mais c'est quoi des bobos alors?
C'est des gens de gauche.
Quand en même, général.
Quand même.
Enfin, c'est des capitalistes de gauche en général.
Ouais, c'est ça. C'est très joliment dit. Des capitalistes de gauche qui s'intéressent à la culture d'une manière assez large et qui aiment en même temps, les quartiers populaires. Donc là-dessus, on correspond bien.
Ouais, c'est. Ouais. Qui n'ont pas envie de vivre dans une extrême bourgeoisie, dans une espèce de confort total, je pense. Hein. Confort total, c'est pas vraiment ce qu'on cherche. Non, c'est pas vraiment ce qu'on cherche. Ce qui est bobo.
Pardon ?
Bobo.
Bobo, ouais.
C'est ouais, marrant que vous dites ça, parce que l'autre jour, il y avait un tag pas loin, il y avait marqué « Les bobos rentrez chez vous ».
Apparemment, pas signé d'un bobo.
Apparemment, non, mais je ne sais pas où c'est chez nous. En
fait, c'est le troisième.
Ouais.
Bah non, c'est tous les bobos, c'est les fils des troisièmes, quatrièmes, onzièmes, douzièmes, et hop, ils émigrent dans le 18e, 19e, 20e. C'est comme les fils du 16e qui vont habiter dans le 15e, parce qu'ils n'ont pas d'argent pour acheter dans le 16e.
C'est un peu
ben
ça.
C'est pareil. On repousse.
C'est un peu ça, ouais.
On transforme son quartier.
Moi, en même temps, je me considère bobo de culture et en même temps pas bobo de finance, quoi. Parce que j'ai clairement pas les finances d'un bobo, quoi. Je
suis propriétaire. Ouais,
je suis propriétaire. Voilà. Non, mais j'ai cette chance-là, c'est clair.
Vous êtes propriétaire?
Non. Moi, on est propriétaire.
Bah, aussi. Aussi, ouais. Trois.
C'est carrément capitaliste de droite, lui. C'est pas vraiment un bobo.
Ah non, pas moi. Et les deux frères avec qui on rallonge, locataire.
Ouais, les anciens nobles.
Voilà.
Sacré bourgeoisie, tu le perds. Ouais.
On t'a coupé la tête.
Ça fait la grosse différence. Hein. Parce que le salaire part à la location.
C'est une grosse différence. Parce qu'avant, je payais pas de loyer.
Non. Toujours payer un loyer, alors ça change rien en fait.
Non, ça change entre ceux qui sont propriétaires et ceux qui sont locataires.
Ouais. On paye des charges, j'imagine.
On paye des charges, on paye des travaux. On paye
l'emprunt, s'il y a un emprunt.
On paye
l'emprunt.
Un loyer qui vaut un loyer. La seule différence, c'est qu'au final, on se retrouve avec
un patrimoine.
C'est pas perdu.
Voilà.
Qui prend de la valeur, d'ailleurs.
Qui prend énormément de valeur.
C'est flippant.
C'est flippant.
C'est la crise.
C'est la crise. Paris, ça
mais même en banlieue. Attends, à Romainville, moi j'ai vu les prix. L'autre jour, je suis passé devant une agence immobilière en allant chez toi d'ailleurs. Et j'ai vu les prix. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est le délire, quoi. C'est la crise financière. Et,
pas dans l'immobilier.
Pas dans l'immobilier.
Il y a eu une stagnation. Une espèce de.
Pas en province. Une
pause.
Non.
Pas en province. En province, c'est pas la même. Moi, je vois par rapport au bien immobilier de ma mère, là ça fait mal. Mais à Paris, Paris et banlieue, c'est flippant.
Ah oui, c'est flippant. Appartement.
Ça continue de.
Mon appartement, il a pris 100 000 euros en 6 ans. 100 000 euros en 9e.
Moi, mon cousin qui a acheté pas très très loin d'ici, en 10 ans, ça a pris 100%. 100%.
Et j'ai aussi une dernière question sur les loisirs, culture, moyens d'information. Qu'est-ce que vous diriez que la ville est assez équipée, si j'ai bien compris? Vous avez tellement dit, on aime Paris parce qu'il y a tout.
C'est équipé, mais c'est, enfin, moi qui suis musicien et j'adore aller voir des concerts parce que c'est, ça me nourrit énormément, je n'ai pas les moyens d'aller voir les concerts que je veux. C'est très cher.
Équipé, ah oui, mais trop cher.
Ah oui, carrément. Ouais. Moi, si je pouvais aller voir des concerts plus régulièrement, je le ferais, mais même par besoin. Quoi.
Et même la place de cinéma, rien que la place de cinéma. Ouais, place déjà, du cinéma. Le loisir qui était normalement, qui s'est développé pour. Qui était accessible à tout le monde. C'est accessible, mais 9 euros, 10 euros la place maintenant, 65 euros une place d'entrée, 65 francs une place d'entrée, c'est hallucinant. Quoi.
Et alors finalement, vous sortez
Moi, très peu.
C'est trop cher.
Moi, j'ai pas les moyens.
Moi, c'est comme je disais tout à l'heure, moins, je sors moins, quoi. Clairement.
Moi, j'ai des enfants.
Oui, aussi.
Toi aussi, t'as un enfant aussi, c'est aussi pour ça que tu sors moins.
Ouais, non, mais c'est pas que. C'est aussi une question
de finances. Oui, c'est une question de finances. Ouais.
Les restaurants,
ouais, c'est vraiment,
le cinéma, j'y vais. Ah, bon, il y a aussi le fait d'avoir un enfant, mais
il y a aussi le fait de pouvoir télécharger
aussi. Mais moi, j'allais au cinéma avant, je sais pas, trois fois par semaine.
Ouais, pareil,
moi, j'ai rarement au cinéma, mais ma mère, grâce à mon CE, j'ai des places à 50%. Elle en profite, elle va... sinon, elle irait moins souvent au cinéma qu'avant.
Mm-hmm. Bah, j'y vais une fois par mois.
Et le sport.
On a remplacé ça par la drogue.
Et l'alcool.
En fait, on a fait tous du basket ensemble.
Ouais, on a toujours ensemble.
Tous les cinq, on a fait du basket ensemble.
Au même endroit.
Ouais.
Et c'est lointain, vous avez arrêté et enfin, vous remplacé.
Ouais, ouais, non, ouais, si. Non, ouais, moi, je fais absolument plus aucune activité sportive.
On n'en a plus. Hein.
Non. Chiffre prochain. Ouais.
Donc, vous ne direz pas que Paris manque de je ne sais trop quoi, de piscine, de terrain de basket.
On avait essayé de monter une association quand même pour,
ouais, c'est vrai.
Pour faire du basket.
C'est vrai.
Et on s'est heurté au niveau des salles.
Oh, ouais.
On avait eu la possibilité d'avoir un terrain à l'extérieur à partir de 19h, un truc comme ça.
Ouais, c'est un truc
de... Ah non, on nous proposait aussi des horaires de 12h30 à 14h30 le mercredi.
Oui.
Excusez-nous, on travaille, quoi.
Mais après, c'était... voilà, à 19h, il fait nuit une bonne partie de l'année. Donc,
Oui, en plus.
Le problème, c'est la pluie, hein, surtout en extérieur.
Oui, aussi. Oui.
Mm-hmm.
C'est la pluie en extérieur. Le temps, que j'ai
bref. Enfin, il y a quand même des équipements dans Paris, on peut pas dire que ça manque. De...
Mais si, ça manque.
Ça manque
dans
quand même.
Dans certains quartiers, ça ouais. manque. Et il manque des équipements dans sportifs dans le 20e, dans le 3e. Hein.
Dans non, mais je vois par rapport à la province, quoi, où vraiment là. Là, des fois, tu fais 40 bornes pour aller faire du foot, quoi.
Ouais, mais pas toujours.
Hein. Ah ouais, mais il faut être 11 pour jouer au foot, déjà. Il faut que tu ratisses large.
Et le musicien, il a des endroits pour jouer du piano?
Non.
Plus, non,
non, non, non, c'est pas lamentable. Plus. C'est bah disons qu'il y a le problème du bruit aujourd'hui qui est absolument violent par rapport aux salles où on jouait. Où il y a... Aujourd'hui, dans les salles, il y a de moins en moins de salles qui acceptent les batteurs. Mmh. Eux, les pauvres, alors, eux, ils en chient vraiment, mais vraiment bien. Les saxophonistes aussi, tout ce qui est soufflant, saxophone, trompette, etc. Et... La clarinette, à la limite, c'est presque épargné parce que ça n'a pas un son trop fort, enfin en termes de volume. Mais oui, non, non, si, il y a énormément de salles qui ont fermé, des salles de jazz notamment.
Ça, c'est pour se produire.
Oui.
Et des salles pour travailler.
Oh, il en faudrait plus, hein, parce que les apprentis violonistes, c'est insupportable.
Non, les salles pour travailler, non, c'est cher. Oui. C'est cher.
Donc là, il n'y a pas de politique.
Si, il y a des endroits quand même, Studio 104, Centre Barbara, les MJC aussi, qui font des choses intéressantes. Mais c'est les conservatoires aussi, les conservatoires qui proposent des salles, mais ça tout dépend en fait de l'instrument. Moi, je vois par exemple par rapport à mes élèves de piano, la plupart maintenant travaillent sur numérique parce qu'en termes de voisinage, ça fait la paix, parce que c'est vrai qu'un piano, c'est très sonore, et que ça traverse tous les murs des immeubles des années 70. Hein.
Mais moi, ils ont fait brûler une salle à côté de chez moi, une rue de chez moi, ils ont fait brûler une école de musique, à cause du bruit.
Mais oui, moi je pense
c'est quand même extrême, mais je ne pensais pas voir ça, tu vois.
Il n'y a pas assez de structures comparé à la population à Paris. Là, tu parlais du conservatoire. Nous, on hésitait cette année à inscrire notre fille au conservatoire. On ne l'a pas fait. On sait que maintenant, elle ne pourra jamais rentrer au conservatoire. Parce qu'ils
c'est
les
pas
prennent...
vrai.
C'est super difficile. Ils les prennent à partir de 6 ans.
Débat.
Ils les prennent à partir de 6 ans. Et à partir de... c'est très difficile. Après, les places sont hyper chères pour pouvoir rentrer après 6 ans. Dans les conservatoires d'apprentissage comme ça. Après, pour les conservatoires de jazz, je sais pas, et pour certains trucs très spécifiques.
Non.
Mais je t'assure, et ils le disent, et ils le précisent, que c'est beaucoup plus difficile de les faire rentrer après, à 7, 8, 9 ans, parce qu'il y a déjà une telle demande.
Il y a énormément de demandes.
Il y a une telle demande qu'ils les prennent à 6 ans et ensuite ils les suivent jusqu'à.
Oui.
Et donc, s'il n'y en a pas qui partent, il n'y a pas de place en plus.
Non, mais de...
c'est simple oui. Que ça.
Et puis c'est vrai que le conservatoire, en termes d'enseignement musical, c'est quand même ce qui est vachement ce qui est le plus accessible. Quoi. Tout ce qui est école privée, ça commence à chiffrer vraiment pour les parents. Et c'est sûr que c'est financièrement le plus simple.
Vous vous êtes formé sur votre quartier ?
Un peu.
Est-ce que, je sais pas, les journaux de quartier, Internet, les comités de quartier ? Non, on
ne dit
pas
comité de quartier,
on dit
les assemblées. Moi, je lis sur le trône le journal de Romainville.
Moi, je lis dans mon canapé.
Arrête de mentir. Je passe la plupart de... Enfin, quand je suis à Romainville, je suis chez moi, je ne suis pas dehors. Hein. Sinon, quand je suis dehors, je suis à Paris. Vraiment.
Romainville, c'est un dortoir.
Ouais, enfin, j'y travaille aussi, parce que je travaille chez moi. Moi, j'écris de la musique, donc je compose, et ça, je le fais chez moi la plupart du temps.
Tu sors à Romainville ?
Non. Non, ou je vais voir ton frère à Montreuil.
Au Lila, ouais. Au Lila, tu peux plus sortir.
Mais là, c'est différent.
Bah, c'est un peu le 21e quartier de Paris.
Ouais, quand même. Hein.
Lila, c'est déjà rattaché à Paris.
Ouais,
un petit peu. Hein.
Carrément.
Ouais. Ça va l'être de plus en plus. Hein.
Et encore, ça reste quand même un village, quoi.
Oh, c'est super beau, quand même. Là, justement, là, on est en plein dedans.
En quoi ?
Parce qu'on a une vraie vie de petit village, quoi. On connaît les commerçants. Les commerçants vous reconnaissent, ce qui est pas mal aussi. Puis on connaît ses voisins, on discute avec ses voisins.
Ouais, mais toi, tu peux discuter avec tes voisins parce que la configuration aussi, mais parce que la configuration de là où tu habites, c'est que c'est plusieurs bâtiments avec une cour intérieure, donc comme il y a pas mal d'enfants, vous vous retrouvez là avec les enfants, donc vous avez l'occasion de parler. Mmh. Des personnes qui sont dans un immeuble, les enfants peuvent pas dans la rue de Paris, ils peuvent pas aller jouer dans la rue et retrouver des autres, etc. Donc
bah, quand t'as pas d'enfant, t'as moins d'amis, quoi.
Quand t'as pas d'enfant, t'as moins d'amis. Parce que en étant à Paris, juste là, en étant juste là, rue Ramponneau, où il y avait pas d'endroit pour jouer en bas, on a quand même lié vachement de liens avec d'autres parents d'enfants qui habitaient soit dans le même immeuble, soit c'est juste à côté.
C'est clair.
Vos enfants sont allés à l'école de la rue Ramponneau ?
Non. Non, et bah Palikao. Et ensuite, comme on est arrivé ici, quand ça a changé, le deuxième est encore à Palikao et ensuite elle est allée à Julien Lacroix.
Je reviens juste donc à cette information sur le quartier. Ça joue un rôle, c'est juste le plaisir de savoir ce qui se passe où vous participez à des choses du quartier ou pas.
Pas vraiment.
La brocante.
Tu vas à la brocante.
Je vais à la brocante. Non, en plus, non.
La fête des voisins.
Ouais.
Ça vous a atteint ?
Ouais, une année.
Oui.
Une année.
Ouais.
Ah non, pas du tout. Non, parce que après ça s'est arrêté.
Mais pareil.
Non, mais sinon, nous, il y a plein de trucs qui se passent au Lila, donc on assiste à plein de trucs. Il y a des tremplins musicaux. Il y a une fête annuelle au Lila, c'est la fête des associations, donc on fait le tour de toutes les associations. Sinon, il y a, je ne sais pas ce que c'est comme événement, mais c'est plein de petits artisans, plein de petits ateliers qui ouvrent et qui font ça pendant un week-end. Donc nous, on assiste à ça chaque année, quoi. Et ouais, il y a très régulièrement des activités ou des événements. Un vrai petit village. Et non, on assiste à plein de trucs, quoi. Je suis en fait pas mécontent d'avoir déménagé. Je regrette pas, mais c'est le troisième, quoi.
Vrai petit village, vous diriez ça, de chez vous?
Du 20e? Un petit peu.
Votre 20e à vous, là?
Ouais, mon petit 20e, un petit peu.
Un petit peu. Vous n'avez pas parlé du marché? Ça en fait partie.
Ah ouais?
Oui, vous y allez?
Au marché?
Oui.
Régulièrement, tous les dimanches. Tous les dimanches matin et le mercredi quand je travaille pas. Mmh. Et le vendredi, on a un marché bio. Alors on y va.
Marché bio aussi.
Oui, mais on consomme pas trop hein, parce que bio c'est trop cher.
D'accord. Vous aussi? Le marché, oui, les commerçants, oui, le petit village.
Dans le 9e arrondissement.
Moi, je suis assez loin des marchés en fait, finalement.
T'es loin de tout. Hein.
Ouais. Non, mais c'est vrai. Ouais, carrément, moi je suis assez loin des commerçants donc. Les marchés, non, pas vraiment, ou quand j'y passe, quoi. Quand je m'y retrouve, je me retrouve là par hasard, oui, j'y vais volontiers. Mais,
bon, la vraie vie de petit village, c'est à Paris, alors.
Mais moi, j'habitais vraiment à deux pas de
Paris. Pas totalement. C'est un village dans un village. Il y a plusieurs villages au même endroit. Ouais.
Moi, j'habitais rue Julien-Lacroix, et là, c'était vraiment le village. C'est-à-dire que je connaissais tout le monde. Tout le monde s'appelait par son prénom. Je connaissais le boulanger. Je connaissais le coiffeur, je connaissais le pizzaiolo, et tout le monde me connaissait. Et c'était vraiment village. Mais c'était un micro-quartier dans le quartier.
Moi, je retrouve ça un peu dans le 9e, quand même, hein, où je connais le Libanais, le boulanger. Le dimanche, donc il y a un marché, c'est fermé aux voitures, par exemple. Donc c'est piéton jusqu'à 13h30. Mais bon, c'est quand même assez... c'est pas un quartier, là, c'est vraiment trois rues, quoi.
C'est peut-être ça que...
Oui, c'est le quartier dans le quartier, quoi. C'est...
Chacun, vous nous avez dit, non, c'est plus petit.
Ah, c'est un peu ça. Hein. Hein ouais. C'est un peu ça, c'est un peu, effectivement, 3-4 rues qui font le village dans le quartier.
Ouais. Je crois qu'on a fait le tour de plein de choses, et puis j'ai dû en oublier des tas. Je ne sais pas lesquelles, qu'est-ce que j'ai oublié?
Essentiel
par rapport à la ville,
par rapport à vous et la ville, pas la ville comme ça, sinon j'irai lire des livres d'histoire. Mais...
Les Franprix,
c'est vrai qu'il y en a,
j'ai 7 Franprix autour de dans mon quartier.
Franprix au lieu de
non, Franprix, il y a pas Carrefour Market, et encore 7, je crois que je suis gentil parce qu'il va y en avoir une dizaine. Et ça, c'est vrai qu'avant, il y avait un ou deux endroits où, non, déjà, il y avait peut-être un ASECO dans le 3e arrondissement.
ASECO, quelque chose.
Voilà. Là,
ASECO,
bah, mais là, ASECO qui était ouvert toute la nuit.
Toute la nuit, c'était quand même assez... c'était unique, quoi. Mais là, oui, non, il n'y a plus ça. Enfin, il y a l'épicier, non. Maintenant, il y a 5 Franprix, 5 Carrefour Market, 2 Champions. Oui, moi, c'est un truc qui m'a marqué... Ça pullule comme ça, il y en a partout.
Lidl,
j'habite dans le 9e. Ouais. Ouais. il y a Spar, c'est plus cher que Franprix et Carrefour.
Moi, j'ai acheté chez moi un Simply Market. C'est dans le style de Lidl, quoi.
Mm-hmm. Bah, j'en ai pas. Il y en a pas mal aussi dans le quartier. Ah. Il y a 2D, un Simply.
Moi, j'ai un Leader Price qui a disparu pour un Franprix. Ça sent bourgeoise.
Ouais, c'est ça.
Et pas de Carrefour.
Il y a un casino, là, pas loin.
Moi, il y a un Carrefour, mais faut prendre la voiture, quoi. Il y a un Carrefour, il y a un Leclerc aussi. Deux stations de métro.
Bien, ça n'a rien à voir. Vos habitudes de consommation sont restées des habitudes françaises traditionnelles, turco-françaises peut-être. Où vous vous êtes passé par les sushis, arrivé au wok
dans la cuisine que l'on fait ou dans les achats
dans dans les achats, ouais. Cuisine et achats.
Non, pas vraiment.
Je ne fais pas de sushi, mais j'adore ça.
Ouais, je suis d'accord.
Le japonais est un restaurant que j'affectionne et auquel je m'autorise de temps en temps.
Plutôt des sushis que de la blanquette.
Ah, la blanquette, moi, c'est... Non, si, la blanquette, mais la blanquette, je vais chez mon père pour ça. Mais non...
Bon, on a toujours mangé tout, mélangé.
Toi, t'as mangé tout. Alors là, tu te fous de la gueule du monde. Mais alors vraiment, mais c'est parce que c'est enregistré, quoi. Mais n'importe quoi. Oh, le mec le plus difficile du monde.
Ouais, je mange rien.
Jamais je t'invite à manger. Jamais de la vie, quoi.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que toute culture, enfin, tu vois, genre, du kebab au japonais, en passant par le McDo.
Tu manges du poisson
français, poisson, oui.
Ça a changé.
Mais je m'arrange avec le temps. Je pense plus de choses.
À 60 ans, tu dis
je sais pas, moi, moi, on m'a toujours dit d'à manger de tout. Enfin, on m'a toujours dit, t'as le droit de goûter, et j'ai été éduqué à goûter, et puis ensuite, j'aime ou j'aime pas, donc je...
Mais vous-même, vous cuisinez quoi? Parce que si j'ai bien compris, vous faites tous la cuisine.
Oui, qu'on puisse dire.
Alors, qu'est-ce que vous cuisinez? Ce qui m'intéresse, c'est la mondialisation. Est-ce que ça vous touche dans vos habitudes à vous?
Peut-être.
Oui, mais
on s'en rend peut-être pas compte.
Oui, on se pose même pas la question, j'ai l'impression. Est-ce qu'on mange ce qu'on aime, quoi?
Ouais, moi j'ai...
Oui, mais...
Et puis il y a tout dans ce
qu'on... Moi j'étais influencé par la boue de ton père. Ouais. Enfin, moi je sais pas, le riz, je le fais pilaf, quoi, déjà. De base.
C'est quoi le pilaf?
C'est comme le cuit à mettre. Enfin, tu le fais revenir dans l'huile d'abord. Tu le fais revenir dans l'huile et ensuite tu fais double volume d'eau par rapport au volume de riz.
D'accord.
Et tu attends qu'il n'y ait plus d'eau pour. Tu le fais cuire à feu doux. Et voilà, mais ça c'est plus toi ou arménien qui m'a. Enfin voilà, moi j'imite ce que j'ai vu plus que.
Ce que t'as aimé.
Ouais.
Vous faites du couscous?
Non.
Vous faites des paellas?
Pas vraiment.
Non plus. Non, on les mange, mais on les fait pas.
Ça.
Moi, je trouve dommage quand même que, par exemple, dans le 20e, il y ait, là, autour de chez moi, il n'y ait pas un vrai fromager. Ça, je trouve ça dommage. Il y en a à Jourdain, il n'y en a pas, non? Un vrai fromager qui vend du fromage comme à Jourdain, où il y en a deux.
Non, on en a pas autour. Il y a.
Ouais. Mais nous, il n'y en a pas autour. Là, chez moi, je trouve ça dommage.
Bah, chez moi, il y a.
Sur le marché.
Pardon?
Le marché?
Un petit peu.
Et les bouchers?
Effectivement. Les bouchers, oui.
Les bouchers non halal.
Les bouchers non halal, il y en a très peu.
Nous, on en a quatre.
Tout celui-là, si j'ai bien compris.
On n'a pas de pression.
Les français, les franco-français, bobo, au lila. En fait, c'est ça.
C'est un peu le Neuilly du 9-3.
C'est ça la conclusion,
malgré tout. C'est vrai que c'est un peu le Neuilly du 9-3.
Quand même, ouais.
Bah écoutez, merci beaucoup. Je sais pas quelle heure il est, je sais pas combien de temps.
Non, à peu près 2 fois 40 minutes.
Mais ça reste raisonnable.
Ça nous a fait très plaisir, hein.